Bonsoir Hélène Philly.
Bonsoir à tous. Vladimir Poutine, enfermé dans la guerre qu'il a déclenchée. Nouvelle prise de parole du chef du Kremlin ce soir. Il persiste. L'opération se déroule selon le plan. Russes et Ukrainiens sont un seul peuple, dit-il encore. Emmanuel Macron, qu'il a eu au téléphone un peu plus tôt, est pessimiste. Le pire est à venir, juge l'Élysée. Le chef d'État, tout proche ce soir d'être candidat à la présidentielle. Une lettre aux Français sera publiée dans la soirée sur les sites de la presse régionale. Autre titre d'une actualité qui se bouscule, puisque ça y est, on voit le bout de toutes les restrictions liées au Covid. Le 14 mars, la fin du pass vaccinal et du masque. On pourra l'enlever, pas dans les transports, mais au travail. Et au téléphone sonne, Christelle.
Eh bien, l'Ukraine agit plus 8. Où en est-on sur le front militaire, géopolitique, humanitaire? Rien ne se passe comme prévu pour Vladimir Poutine, mais l'offensive gagne du terrain. Toutes les questions que vous vous posez sur ce qui se joue et sur la suite, appelez-nous 01 45 24 7000 pour participer à cette émission qui est la vôtre.
France Inter.
L'Élysée n'est pas sortie rassurée, loin de là, de l'appel de Vladimir Poutine à Emmanuel Macron aujourd'hui. Une heure et demie d'échange, c'est la troisième fois que les deux hommes se parlent depuis l'invasion russe. Le président russe, jusqu'au boutiste, avait un message à faire passer. L'offensive en Ukraine va continuer. On retrouve en direct de Moscou Sylvain Tronchet. Bonsoir Sylvain.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes notre correspondant en Russie. Vladimir Poutine l'a répété, l'offensive va continuer il y a quelques minutes au cours d'une conférence de presse.
Oui, l'offensive va continuer et l'armée russe est dans ses prévisions. Elle suit son plan de route. On peut résumer comme ça le discours que vient de tenir Vladimir Poutine à la télévision avec près de 4 heures de retard sur l'horaire initialement annoncé. Mais c'était assez classique ici. Le président russe qui a longuement rendu hommage à ses soldats, qui a annoncé notamment qu'un officier tué serait élevé au rang de héros de la Russie dans une geste qui rappelle évidemment l'Union soviétique, qui a expliqué aussi que chaque famille de soldats tués toucherait environ 7 500 000 roubles, à peu près 75 000 euros. Et le président russe, dont le discours, au fond, n'a absolument pas varié d'un iota, on l'écoute.
Aujourd'hui, sur le territoire ukrainien, nos soldats et nos officiers luttent pour la Russie, pour apporter la paix aux citoyens du Donbass et pour la dénazification et la démilitarisation de l'Ukraine. Pour que l'anti-Russie qui a été créée par l'Occident ces dernières années à nos frontières ne nous menace plus, y compris avec des armes nucléaires comme ces derniers temps.
Voilà, on se demandait vraiment ce que le président russe allait dire lors de ce conseil de sécurité qui se tenait cet après-midi. Je rappelle que la dernière fois qu'il avait réuni cette instance, c'était pour annoncer la reconnaissance des républiques séparatistes du Donbass, c'est-à-dire le prélude à la guerre. Le discours du maître du Kremlin ce soir était manifestement à usage interne, clairement dirigé vers son opinion publique. Il ne faudrait surtout pas croire que le pouvoir russe ne s'en soucie pas.
Oui, on reste assez loin du cessez-le-feu, on le comprend. Russes et Ukrainiens qui négocient en ce moment à la frontière biélorusse se sont tout de même mis d'accord ce soir sur des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils. Et Sylvain, vous êtes toujours avec nous. Les milieux économiques commencent à réagir. Un géant russe, première société d'envergure à prendre ainsi ses distances, le pétrolier Lukoil, appelle à l'arrêt de la guerre.
Oui, Lukoil, ça pèse dans l'économie russe. C'est le premier producteur de pétrole. C'est la troisième plus grosse entreprise en Russie. Elle est dirigée par un oligarque, un homme qui s'appelle Vagit Alekperov, qui est une figure majeure du capitalisme russe. C'est un homme qui est parti d'en bas. Il était ouvrier sur les champs de pétrole à Bakou. Il est né en Azerbaïdjan, d'ailleurs. Et cet homme est son président, Leonid Fedoun, qui lui aussi est une personnalité. C'est le propriétaire du Spartak de Moscou, l'un des clubs russes de foot les plus populaires. Leur communiqué ne va pas jusqu'à critiquer ouvertement le gouvernement, mais il appelle clairement à la paix, à l'arrêt des combats. Deux autres oligarques avaient déjà, eux aussi, appelé à la paix. On ne peut pas parler de fronde, mais tout ceci n'est pas complètement anodin non plus.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou, la Russie, qui n'est plus sûre pour les Français. En tout cas, Paris a demandé à ses ressortissants aujourd'hui de quitter le pays, ceux dont la présence n'est pas essentielle. Depuis quelques jours déjà, les grandes entreprises françaises rapatrient leurs expatriés, mais d'autres choisissent de rester quand même pour l'instant. C'est le cas de Pascal que vous avez pu joindre, Sylvain, cadre dans une société étrangère à Moscou et installé dans la capitale russe depuis 30 ans.
C'est le choc, parce que quand on a vécu 30 ans ici, je ne pensais même pas que ça pourrait arriver à ce point-là. On sait un petit peu, on a l'habitude, ça fait plusieurs crises qu'on passe économiques, des moments difficiles, mais pour arriver à un tel point de conflit, franchement, on s'imaginait pas. Donc, la première chose, c'est qu'il faut d'arriver déjà à accepter la vérité d'aujourd'hui ou la réalité d'aujourd'hui. Donc, ça, c'est dur. J'ai une épouse russe, un enfant à la double nationalité, donc ça ouvre énormément de questions. La décision pour l'instant pour nous, elle est de rester ici. Si je suis resté 30 ans en Russie et me sentir bien ici, c'est justement parce que j'ai jamais fait de politique ou jamais rentré dans des situations qui sont difficiles. Donc là, maintenant, se dire de tout lâcher, tout repartir. Après, vous avez une équipe ici qui est avec vous depuis plusieurs années. Elle est laissée. Et après, partir où, pourquoi? Donc pour l'instant, non. On a pris pour l'instant la direction de rester ici.
Témoignage d'un Français installé en Russie et en Ukraine. Ça fait aujourd'hui une semaine que la population vit dans l'angoisse de l'invasion russe sous les bombes. Une éternité, les minutes sont des heures, des jours de peur permanente. Le seul abri, bien souvent, ce sont les sous-sols, les caves de maisons, d'immeubles. Quand la vie souterraine devient la vie normale, c'est un reportage de Marc Garvenès et Vanessa Descoureaux.
Un petit escalier mène à l'arrière-cuisine d'un restaurant fermé depuis une semaine. Les fenêtres sont vulgairement obstruées par des cartons. Au deuxième sous-sol, la cave est devenue la chambre de 13 personnes. Ce sont les employés du restaurant de Taïssia. La patronne s'estime chanceuse. Il y a du chauffage, il y a Internet. C'est une cave de luxe, s'amuse-t-elle.
Dans la cave, on n'entend plus les bombardements. Ça ne veut pas dire qu'on est coupé du monde. On suit les infos. La télé, on a tout installé ici.
En journée, le restaurant prépare des repas pour les militaires, pour les volontaires. Sur la boîte qui leur est livrée, Xenia prend tout son temps pour dessiner des messages d'encouragement. 22 ans et déjà sa deuxième guerre. Elle a quitté le Donbass en 2014.
Avec mon vécu à Donetsk, je ne vis pas si mal cette situation. Je connais ces situations. Toutes ces guerres, ça nous fait grandir trop vite. On devient des adultes beaucoup plus vite que la normale.
Pour les employés de ce restaurant, un problème commence à se poser. C'est l'approvisionnement en nourriture. Une nouvelle difficulté dans la vie déjà insupportable des Ukrainiens.
Reportage de Vanessa Descoureaux dans les sous-sols de la capitale Kiev et au huitième jour de guerre face à la résistance des soldats et de la population. L'armée russe en vient donc à une guerre de siège. Valentin Dunat, bonsoir.
Bonsoir Hélène.
Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine. Vous vous trouvez, vous, au sud de Kiev. Les Russes ont pris le contrôle de la ville de Kherson, dans le sud du pays, porte d'entrée de la Crimée, continuent de pilonner plusieurs autres grandes villes du pays, Mariupol notamment.
En effet, cette ville portuaire et industrielle de plus de 400 000 habitants située tout près de la frontière russe au sud-est du pays est pilonnée depuis plusieurs heures maintenant. Les habitants terrés dans les sous-sols décrivent des bombardements continus. L'armée ukrainienne dit résister et explique que les Russes n'ont pas encore atteint leur but principal qui est de capturer la ville. Plus au nord, Kharkiv, deuxième ville en termes de population, capitale historique du pays, continue elle aussi d'être bombardée sans relâche et ce depuis plusieurs jours, tout comme Nijin, Soumy et Tchernikiv. Dans cette ville à 150 km au nord-est de Kiev, deux écoles et des habitations ont été touchées aujourd'hui par des frappes russes. Le gouverneur de la région fait état ce soir d'un bilan de 22 morts. Kiev, Valentin Dunat, Arthur Gerbeau, France Inter.
Et en mer Noire, deux cargos ont été touchés par un missile ou une bombe. L'un a coulé au large d'Odessa. Plusieurs marins sont portés disparus. Les Européens ont décidé d'accorder une protection temporaire aux réfugiés fuyant la guerre. C'est une décision historique qui a été prise par les ministres de l'Intérieur cet après-midi, alors qu'un million de personnes ont déjà fui le pays. En France, l'aéroport de Beauvais a mis sur pied un centre d'accueil. Une cinquantaine d'Ukrainiens y ont déjà été accueillis. Reportage France Bleu Picardie. Cardi, Corentin Bémol.
Vlada arrive enfin à Beauvais, son oncle l'attend au terminal. Ils s'embrassent, se prennent dans les bras. Elle est partie de Kiev il y a 4 jours.
Je suis très fatiguée, je me sens terrible parce que toute ma famille est restée en Ukraine, dans la ville la plus dangereuse. Ma famille est à Kharkiv et j'espère que quelqu'un encore pourra déménager ici. Ils peuvent mourir s'ils le font parce qu'on bombarde les civils.
Elmira aussi est partie d'Ukraine avec ses deux filles. Un départ difficile.
My friends live now in the...
Mes amis vivent aujourd'hui sous la terre. La ville où mes enfants vont à l'école a été détruite, brûlée. Il ne reste plus rien. Mon mari et mon frère sont restés en Ukraine. C'est un sentiment affreux.
Une dizaine de réfugiés se dirigent vers le nouveau centre d'accueil de l'aéroport. Charlotte est intervenante sociale dans ce centre.
Quand une famille arrive, nous on est chargé de leur donner de la nourriture ou des boissons, de les installer. Et ensuite on prend leur identité, les informations nécessaires pour ensuite pouvoir donner ces informations aux intervenants sociaux qui pourront enclencher un accompagnement administratif selon les demandes des personnes.
Un accueil prévu pour le court terme selon la préfecture. préfète de l'Oise. Elle ajoute que des solutions à long terme pourraient être mises en place si la guerre s'éternise.
Reportage France Bleu, Corentin Bémol. La principale arme des Occidentaux, on le sait, sont les sanctions, le gel des avoirs, la saisie des biens des milliardaires russes. Et elles commencent à être mises en œuvre. Une cellule a été mise en place au ministère de l'Économie à Paris. Et elle a fait cet après-midi un premier bilan, Delphine Simon.
C'est un yacht appartenant au patron du groupe pétrolier Rosneft qui a été saisi la nuit dernière par les douanes à La Ciotat au moment où il tentait d'appareiller en urgence. 4 cargos russes ont été immobilisés et les comptes bancaires de plusieurs personnes gelés à la direction du Trésor, des impôts, mais aussi chez Tracfin. Plusieurs dizaines de personnes s'emploient à recenser les avoirs ou les biens des 500 personnalités ou entreprises russes qui figurent sur la liste européenne de sanctions. Objectif, couper Moscou de ses ressources financières en Europe. Effet préventif selon Bercy, mais son efficacité dépasse les attentes, affirme le ministre des Finances Bruno Le Maire.
Sur les 650 milliards de dollars, la Banque centrale russe, un tiers ont été localisés et gelés. Cela explique l'effondrement du rouble, moins 30%, la fermeture des marchés en Russie et le décret présidentiel qui a été pris pour obliger les entreprises qui touchent des devises à convertir 80% de ces devises en roubles pour soutenir la monnaie russe.
Pour éviter que ces sanctions ne soient contournées, Bercy avec Bruxelles prépare des mesures sur les crypto-monnaies, des sanctions qui pourront être élargies encore si nécessaire.
Delphine Simon, et puis à l'image de l'Ukraine, la Géorgie et la Moldavie annoncent ce soir avoir officiellement déposé leur candidature pour intégrer l'Union européenne.
Et puis à 19h12, une bonne nouvelle, Hélène, le pass vaccinal et le port du masque obligatoire, on n'en a plus que pour 10 jours.
Le 14 mars, les masques à terre, les conditions sont réunies pour la fin de la quasi totalité des restrictions, a confirmé ce midi le Premier ministre. Un peu plus de 50 000 nouveaux cas quotidiens ces 7 derniers jours. C'est encore beaucoup, mais on est loin du pic qu'on a connu il y a quelques semaines. Ça veut dire plus de passe vaccinal, même si un passe sanitaire, vaccin ou test négatif sera toujours demandé pour aller dans un établissement de santé ou une maison de retraite. Il faudra toujours mettre un masque dans les transports, mais plus au travail. Et ça, ça fait plaisir aux salariés de cette start-up qui fabrique des robots agricoles dans le sud-est de Toulouse, où Mélanie Juvet s'est rendue.
Ici, le masque est partout, porté par la soixantaine de salariés dans l'open space, les couloirs, les salles de repos. Alors Thibaut Meunier, chargé des ressources humaines, est content d'apprendre la nouvelle.
C'est une bonne nouvelle, on va pouvoir enfin se voir sourire. Et ça va être plus agréable quand même de venir travailler en voyant tout le monde sourire le matin.
Derrière son masque, on devine justement le sourire de Romain Pinel, informaticien. Il le garde même dehors, en train de tester un robot agricole.
Ça va permettre d'être un peu plus libre aussi, d'avoir moins cette un peu charge mentale aussi, de bien penser à toujours mettre le masque, faire attention, pas ce qui glisse. C'est aussi le retour à la vie normale, on va dire. C'est bon signe.
Soulagement aussi pour Frank Jung, l'un des directeurs en recherche et développement. Il va pouvoir travailler correctement dans l'atelier où sont fabriqués les engins.
En fait, on fait beaucoup d'allers-retours entre nos terrains de test et l'atelier ici où on vient installer du matériel sur nos robots. C'est un environnement quand même qui est assez poussiéreux, assez sale. Bah, vous voyez, c'est assez boueux. On a des machines voilà, qui travaillent la terre, donc c'est rempli de poussière. Et le port du masque devient vite inconfortable quand on est sur un poste de travail ici. Le port du masque n'est pas hygiénique dans ces conditions, quoi. L'atelier est quand même assez grand, donc on a de quoi respecter les distances. Donc on va chacun prendre notre espace et enlever le masque avec plaisir.
Un confort auquel il va falloir se réhabituer, à vous ses salariés. Certains le portent depuis le 1er décembre 2020, lorsqu'il est devenu obligatoire en entreprise.
Reportage Mélanie Juvet. L'annonce de la fin de ces restrictions intervient en tout cas à quelques heures de la fin d'un faux suspense. Emmanuel Macron sera bien candidat à sa réélection. Il le confirmera dans une lettre aux Français. Bonsoir Simon Le Baron.
Bonsoir.
Qui sera publié demain dans la presse régionale, mais en ligne dès ce soir.
Oui, vers 20h30 sur les sites de vos journaux régionaux, un texte d'une page et deux mots d'ordre, solennité et humilité. Voilà pourquoi, nous explique ses proches, il a choisi l'écrit. L'heure est grave, il faut faire sobre. Les Français ne comprendraient pas, évidemment, un lancement de campagne en fanfare. Soit, mais en réalité, cela fait 6 mois que les stratèges macronistes s'appliquent à banaliser cette déclaration de candidature, à la rendre la plus évidente possible. Et puis cette lettre, comme une nouvelle adresse à la nation, ça lui permet de garder de la hauteur, analyse l'un de ses amis. Est-ce que c'est le président qui nous écrit ou est-ce que c'est le candidat? Ses adversaires se plaignent en tout cas depuis des mois d'un débat confisqués. Ils auront enfin ce soir de grandes orientations politiques contre lesquelles se positionner.
Avant lui, deux autres présidents candidats à leur réélection avaient pris la plume.
Mitterrand 88, mes chers compatriotes, écrit à la main, et un style chaleureux, complice, une sorte de réflexion en commun, écrivait Mitterrand, comme il arrive le soir autour de la table, en famille. Sarkozy 2012 aussi, mes chers compatriotes, écrit à la main, et un style, figurez-vous, chaleureux, complice, je veux m'adresser à chacun de vous le plus directement possible, sans aucun intermédiaire. Alors ce n'étaient pas des déclarations de candidature, tous deux s'étaient lancés quelques semaines avant au journal télévisé, mais au fond, disons-le, Emmanuel Macron aussi a déjà plusieurs fois laissé entendre très clairement qu'il serait candidat. Ce qui nous intéresse donc ce soir, c'est de savoir enfin pourquoi il veut briguer un second mandat.
Il y aura donc, merci Simon Le Baron, 11 ou 12 candidats. Philippe Poutou n'a pas encore tout à fait validé ses 500 parrainages ce soir, mais il se dit sûr de les avoir.
Au procès des attentats de Saint-Étienne-du-Rouvray, l'interrogatoire des accusés se poursuit.
Les proches des deux terroristes qui ont tué le père Hamel en 2016 avant d'être abattus. Aujourd'hui, l'accusé Yacine Sebaya, un jeune homme qui a traversé la France pour retrouver les deux terroristes, deux jours avant l'attentat. Ariane Grissel, bonsoir.
Bonsoir.
Un déplacement qu'il s'est évertu à expliquer tout au long de la journée.
J'ai fait le voyage imprudemment. Si je suis là, c'est à cause de moi, constate Yacine Sebaya depuis le box. Pull blanc et imposante chevelure frisée, l'accusé, 27 ans, explique avoir commencé à prier deux mois avant les faits. Rien n'allait dans ma vie, je me suis dit que si je faisais la prière, je pourrais demander de l'aide à Dieu. De vidéos en réseaux sociaux, le jeune Toulousain entre en contact avec Adèle Kermiche sur la messagerie Telegram. Le futur assaillant appelle à le rejoindre à Saint-Étienne-du-Rouvray pour prendre des cours de religion, mais aussi préparer des choses ici. Vous voyez qu'il y a des appels au meurtre, demande le président. J'ai pas réfléchi. Après une dispute avec sa mère, Yacine Sebaya décide de traverser la France pour retrouver Adèle Kermiche, dit avoir été mal reçue. J'ai l'impression que je suis rejetée. Comment les terroristes ont-ils pu vous faire confiance ? Interroge l'avocate générale. Je ne sais pas. Vous n'avez rien vu, rien entendu, rien. Le 25 au matin, il repart à Toulouse. Lorsqu'il apprend le nom des assaillants, le lendemain, il ne parle à personne de cette visite. Dans le box, il se souvient. Je me dis, je me suis mis dans une sale histoire.
Ariane Grissel en direct de la cour d'assises spéciale de Paris. Et puis en bref, après la violente agression d'Ivan Colonna hier, le parquet antiterroriste se saisit de l'enquête. L'agresseur, un djihadiste de 36 ans, aurait expliqué son geste aux enquêteurs par un blasphème du militant indépendantiste corse, toujours aujourd'hui dans un état critique. Et puis c'est aujourd'hui que François Sureau, élu en décembre 2020 à l'Académie française, était reçu sous la coupole. L'écrivain et avocat engagé pour les réfugiés et la défense des libertés a choisi ses mots pour son entrée en présence d'un certain nombre de personnalités dont Brigitte Macron, Bernard-Henri Lévy et l'ancien Premier ministre François Fillon. François Sureau a tenu à évoquer la tragique situation de l'Ukraine, Ilana Moyosef.
Même chez les immortels, même sous la coupole de l'Académie, il était impensable pour François Sureau de ne pas faire allusion à l'Ukraine.
On ne peut pas, même ici, prononcer un discours préparé il y a longtemps sans penser à l'épreuve que traverse notre continent et notre conscience européenne, notre bien le plus précieux.
Et il s'en est expliqué tout de suite après.
La littérature en France est faite de ça. La littérature en France est faite de la réaction de Voltaire, de Hugo, de Gide au moment de l'URSS. Elle est faite de la réaction des écrivains au mouvement de la conscience de leur temps. Et ce qui se passe en Ukraine met à l'épreuve notre conscience.
Dans le public, on a pu noter la présence de Brigitte Macron, assise au premier rang, à côté de l'ancien Premier ministre François Fillon, très critiqué pour avoir siégé jusqu'à la semaine dernière au conseil d'administration de deux importantes sociétés russes. Mais pour François Sureau, ce paradoxe n'en est pas un.
Tout ça m'est égal. J'aurais soutenu la candidature d'Aragon si j'avais été vivant à l'époque, alors qu'il avait été le pire stalinien qui soit. Dès lors qu'on a connu des personnes, et alors même que leurs idées peuvent être absolument différentes, je ne vois aucune raison humaine de faire une croix sur les obligations de l'amitié.
François Fillon s'est éclipsé tout de suite après les discours.
Reportage Ilana Moriousef et Sandrine Malon. Et pour retrouver les faits marquants de cette 8e journée de guerre en Ukraine, je vous rappelle qu'il y a toujours notre site franceinter.fr. Et la discussion se poursuit avec vous, auditeurs, dans quelques instants.
Merci, c'était le journal d'Hélène Philly. À demain. Et avant de dialoguer avec vous au 01 45 24 7000, un coup d'œil au ciel.
La météo avec Euromaster.
toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Suivi préventif, entretien sur site ou en centre, Euromaster est au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Rebonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Christelle, bonsoir à tous.
Pluie à l'ouest, soleil à l'est.
Oui, lentement mais sûrement, les pluies qui bordent la façade atlantique en ce moment vont réussir à se décaler un peu plus dans les terres mais en perdant de l'activité. Demain, cette perturbation pluvieuse va s'étendre entre les côtes normandes, l'Anjou, la Touraine jusqu'au bassin aquitain, au midi toulousain et aux Pyrénées. L'après-midi, les pluies deviendront faibles et isolées, hormis entre les Pyrénées et le Tarn où elles resteront durables. Il va d'ailleurs neiger au-dessus de 1000 mètres d'altitude. Des averses sont aussi attendues sur les Alpes du Sud, la Côte d'Azur et la Corse, avec là aussi de la neige en moyenne montagne. Et puis le soleil s'imposera quand même rapidement entre le golfe du Lion, l'ouest de la Provence, Rhône-Alpes et le Grand Est. En Bourgogne, en région parisienne et sur les Hauts-de-France, il faudra un peu plus de patience pour profiter des éclaircies. Mais l'après-midi sera bien ensoleillé. Et puis des éclaircies plus timides reviendront aussi entre la Bretagne et les Landes.
Et les températures seront douces.
Oui, la nuit sera quand même encore froide.
Ça sur pique toujours un peu.
Avec des gelées généralisées. Mais les maximales resteront globalement au-dessus des valeurs de saison, malgré une légère baisse. Prévoyez 10 degrés à Mulhouse, 11 degrés à Rennes, Rouen, La Rochelle, Biarritz et Aurillac, 12 degrés pour Dijon et Toulouse, 14 degrés à Paris et à Ajaccio. Il fera 15 degrés à Grenoble et Bourges, 16 degrés à Perpignan et à Toulon et on ira quand même jusqu'à 19 degrés du côté de Nîmes.